Vous êtes avec SBS French.
Nous rendons hommage aux propriétaires traditionnels de la terre à partir de laquelle SBS French diffuse. Le peuple Wurundjeri de la nation Kulin, ainsi que leurs aînés passés et présents. Nous rendons hommage également à toutes les tribus et clans aborigènes, ainsi que les insulaires du détroit Torres auxquels nous diffusons.
SBS, a world of difference. You're with SBS French, on mobile, online and on radio.
Vous êtes avec SBS French sur votre smartphone, en ligne et à la radio.
Madame, monsieur, bonjour, bienvenue au programme de ce jeudi 14 avril. Avec vous, Jean-Noël Ducasse, et au cours de cette émission, le journal, les sports, la rubrique de l'économie australienne. Et on fera le point sur le premier tour de l'élection présidentielle en France avec le décryptage des résultats en Australie. Il est 13h, c'est l'heure du journal. Les grands titres de ce 14 avril, Scott Morrison nie avoir rompu une promesse électorale clé de 2019 en ne mettant pas en place une commission fédérale sur l'intégrité en 3 ans de pouvoir. C'est la 4e journée donc de la campagne électorale qui se poursuit et le Premier ministre se trouve en Tasmanie alors que le chef de l'opposition se trouve dans le Hunter Valley de Nouvelle-Galles du Sud. Scott Morrison nie avoir rompu une promesse électorale clé de 2019 en ne mettant pas en place une commission fédérale sur l'intégrité en 3 ans de pouvoir. La coalition n'a pas réussi à soumettre son modèle au Parlement, affirmant qu'elle ne le soumettrait pas à un vote tant que les travaillistes n'auraient pas promis de l'accepter. Mais les experts juridiques ont largement critiqué la politique de la coalition, disant qu'elle n'aura pas assez de pouvoir pour enquêter sur les allégations de corruption. La députée libérale de la circonscription de Bass en Tasmanie, Bridget Archer, qui a voté avec l'opposition l'année dernière pour amener le débat au Parlement en faveur d'une commission sur l'intégrité, a fait campagne ce jeudi matin avec le Premier ministre.
I think that all sides of politics think that we should have a national integrity commission, and my view has always been no, I certainly do not want the Labor model. My view has always been all the way through on every occasion that I've spoken about it, that all sides of politics will need to come together to get this done in a bipartisan way.
C'est en Tasmanie donc que se trouve le Premier ministre ce jeudi, où il promet de sécuriser les emplois forestiers de l'État. Scott Morrison s'engage à verser près de 200 millions de dollars pour que le secteur se développe et investisse dans les nouvelles technologies tout en sécurisant les 73 000 emplois existants. Scott Morrison a déclaré qu'un gouvernement de coalition libérale nationale ne soutiendrait jamais la fermeture des usines forestières et travaillerait plutôt avec le gouvernement de l'État pour créer des sites permanents de production de bois. Il ajoute que les pressions de l'industrie du bâtiment et la situation précaire du commerce international ont rendu les compétences professionnelles au niveau local et les produits du bois locaux essentiels.
Regional economies drive our national economy. We won't support any shutdowns of native forestry, and we will continue to work with state governments to create permanent timber production areas.
Anthony Albanese déclare que les Australiens peuvent s'attendre à une hausse des taux d'intérêt, que ce soit le Labour ou la coalition au pouvoir. Le chef de l'opposition fédérale a fait ses commentaires alors qu'il faisait campagne dans le siège de Hunter en Nouvelle-Galles du Sud ce jeudi matin aux côtés du candidat Dan Rapacioli qui espère remplacer Joel Fitzgibbon. Anthony Albanese a déclaré que s'il était élu, son gouvernement garantirait des dépenses responsables pour lutter contre les hausses des taux d'intérêt prévus.
The Reserve Bank have said that interest rates will increase regardless of who is in government. They've foreshadowed that. Our fiscal plan is to make sure that we have responsible spending. Our fiscal plan is to make sure that we don't have the sort of waste that we've seen under this government as well, whereby we've had, I note some, comments about our expenditure on aged care, for example. Talk to these nurses, some of whom work in aged care, about whether it's needed.
Anthony Albanese a également confirmé qu'il maintiendrait une politique de refouler les bateaux qui emmènent des réfugiés et des demandeurs d'asile illégalement en Australie si son parti remportait la prochaine élection. La coalition a critiqué l'opposition pour avoir ouvert la détention offshore sous le régime des anciens premiers ministres travaillistes Kevin Rudd et Julia Gillard. Le gouvernement a récemment conclu un accord avec la Nouvelle-Zélande pour réinstaller jusqu'à 450 réfugiés au cours des trois prochaines années. S'exprimant depuis la Hunter Valley, Anthony Albanese a déclaré que la politique contribuerait à empêcher la détention de réfugiés à l'étranger.
If people smugglers seek to take advantage of an incoming Labor government and do send more boats, will you be tough on boat turnbacks and will you consider an offshore resettlement deal?
We'll turn boats back. Turning boats back means that you don't need offshore detention.
Le chef des Verts, Adam Bent, a déclaré que l'Australie était en guerre contre le climat. S'exprimant au National Press Club hier, Adam Bent a présenté les intentions de son parti d'arrêter les projets de charbon et de gaz. Le chef des Verts a déclaré que l'Australie était en guerre contre le climat et il a élaboré des plans pour gérer le coût de la vie pour les jeunes. Les aéroports australiens connaissent une journée difficile avec un manque de personnel, alors que des milliers de personnes prennent l'avion pour le long week-end de Pâques. Les passagers sont priés d'arriver au moins 2 heures à l'avance pour les vols intérieurs. L'aéroport de Sydney s'attend à ce qu'environ 82 000 passagers devront franchir sous pression les portes de sécurité et les comptoirs d'enregistrement. Le plus grand aéroport d'Australie a cédé sous la pression toute la semaine en raison de manque de personnel et d'absence à cause de la pandémie de COVID-19. Le PDG de l'aéroport de Sydney, Jeff Culbert, a présenté des excuses aux voyageurs pour les files d'attente. Les voyages sans quarantaine entre l'Australie et la Nouvelle-Zélande ont repris officiellement hier pour les passagers entièrement vaccinés contre le COVID-19. La Nouvelle-Zélande, qui a mis en place des restrictions frontalières les plus strictes pendant la pandémie, a passé la majeure partie des 2 dernières années avec les frontières fermées. Les citoyens australiens et les résidents permanents, ainsi que certains travailleurs temporaires et étudiants d'autres pays, sont désormais autorisés à entrer en Nouvelle-Zélande, qui devrait s'ouvrir au reste du monde le mois prochain. Les voyageurs devront toujours fournir un test COVID-19 négatif à leur arrivée. Les membres de l'administration de Joe Biden ont défendu l'appel du président selon lequel la Russie commet, je cite, un génocide et tente d'effacer l'Ukraine de la carte mondiale. Le porte-parole du département d'État, Ned Price, a déclaré que le président basait ses commentaires sur les atrocités horribles commises contre des civils en Ukraine.
Well before the Russian invasion started on February 24th, we released information, declassified intelligence information, indicating that we believed, we had reason to believe, that Russia would seek to commit the very sort of atrocities that we are now seeing. The president also, as you heard, emphasized that it will be the task of international lawyers to determine whether what we're seeing meets that legal threshold of genocide.
L'allégation de génocide du président Biden a été reprise par le premier ministre canadien Justin Trudeau, qui a déclaré qu'il était absolument juste que le terme soit utilisé compte tenu des allégations généralisées de crimes de guerre et d'autres violations des droits humains. Cela survient après que Joe Biden ait approuvé une nouvelle aide militaire de 800 millions de dollars à l'Ukraine, affirmant que les armes de l'Occident ont jusqu'à présent aidé les Ukrainiens à se défendre. Voyons maintenant la situation à Mariupol en Ukraine avec Nicolas Feldman pour RFI.
Les combats se concentrent autour d'une zone industrielle bombardée sans relâche par l'aviation russe. Dans ce vaste complexe, des bâtiments reliés par des kilomètres de souterrains, c'est dans ce labyrinthe que seraient retranchés 2 à 3 000 soldats privés de ravitaillement. Des ravitaillements et des munitions qui manquent aussi un peu plus au nord de la ville. Dans ces quartiers, les soldats de la 36e brigade de la marine ukrainienne se disent prêts à livrer leur ultime bataille. Ce mercredi, le ministère de la Défense russe a annoncé la reddition d'un millier de marins de cette brigade. À la télévision russe, des dizaines de militaires ukrainiens ont été montrés les mains en l'air, certains blessés transportés sur des civières. La bataille de Mariupol, marquée aussi depuis le début de la semaine par des accusations d'utilisation d'armes chimiques. D'après le secrétaire d'État américain, les forces russes pourraient utiliser un mélange de gaz lacrymogène et d'agents chimiques, des allégations non vérifiées et rejetées en bloc par Moscou qui pointent la responsabilité ukrainienne.
Et la campagne des présidentielles en France avec Marine Le Pen qui hier, lors d'une conférence de presse, a élaboré sa vision de politique étrangère et surtout d'un rapprochement de l'OTAN avec la Russie. Reportage de Pierre Olivier pour RFI.
L'exercice était double pour Marine Le Pen. D'un côté, crédibiliser sa posture internationale et sa politique étrangère. De l'autre, attaquer œil pour œil Emmanuel Macron. Première pique sur la façon d'aborder les relations internationales.
À la diplomatie bavarde et ouverte d'Emmanuel Macron, je substituerai la diplomatie du silence et de l'action confidentielle.
Objectif, une France plus indépendante et puissante sur la scène internationale, mais aussi en Europe. Marine Le Pen veut rester dans l'UE, mais en la réformant de l'intérieur, elle veut aussi revoir les relations du couple franco-allemand et égratigne au passage son rival.
Je chérirai la réconciliation franco-allemande, sans suivre en revanche le modèle Macron-Merkel d'aveuglement français à l'égard de Berlin.
Enfin, interrogée sur ses relations souvent décriées avec Vladimir Poutine, Marine Le Pen se défend en attaquant.
Emmanuel Macron, que ce soit au début de son mandat où il a invité Vladimir Poutine à Versailles ou que ce soit à Brégançon, souhaitait, je le cite dans le texte, réarrimer la Russie à l'Europe.
Contourner le sujet épineux de Vladimir Poutine en se positionnant sur la même ligne qu'Emmanuel Macron, une manière aussi de se préparer aux éventuelles attaques du président sortant lors du débat mercredi prochain.
La campagne des présidentielles en France, toujours, et il était question hier de parler de retraite et les deux candidats, Marine Le Pen et Emmanuel Macron, ont des points de vue différents, comme nous l'explique Pauline Glaise pour RFI.
Les deux candidats divergent notamment sur l'âge de départ à la retraite. Marine Le Pen souhaite un changement partiel seulement. L'âge de départ serait abaissé à 60 ans pour les personnes qui ont commencé à travailler avant 20 ans. Celle entrée dans la vie active entre 20 ans et 24 ans et demi partirait entre 60 et 62 ans. Pour les autres, pas de changement, si ce n'est une réindexation des retraites sur l'inflation. Quant au minimum vieillesse, il serait porté à 1 000 euros. Cette pension minimale, Emmanuel Macron envisage lui de l'établir à 1 100 euros à taux plein. Par ailleurs, le président sortant ne propose plus, comme en 2017, une refonte complète du système des retraites, réforme qui avait suscité une forte opposition avant l'apparition de la pandémie. Dans le programme qui figure toujours sur son site de campagne, il propose simplement de relever progressivement l'âge de départ à la retraite à 65 ans contre 62 aujourd'hui et de supprimer les principaux régimes spéciaux. Pour tenter de rallier une partie de l'électorat, Emmanuel Macron s'est toutefois dit prêt à un report à 64 ans plutôt que 65.
En Afrique du Sud, des fortes pluies ont provoqué des inondations mortelles. Plus de 300 personnes ont perdu la vie, selon un bilan des autorités locales. Sur place, Romain Chanson pour RFI.
Trevor s'évertue à garder le sourire. Malgré tous ses malheurs, aucune vie n'a été perdue dans sa famille. Et ce n'est pas passé loin, un glissement de terrain a failli emporter sa maison.
Lundi soir, j'étais dans ma chambre en train de regarder la télé quand on a entendu un gros bruit. J'ai ouvert la porte pour jeter un œil. La cour de devant avait disparu. Il ne nous restait que deux marches, puis le vide. C'est la première fois que ça arrivait. C'est effrayant. On a eu de fortes pluies par le passé, mais pas comme celle-ci.
Comme beaucoup de Sud-Africains, Trevor n'a pas d'assurance. Toutes les réparations devront être payées de sa poche. Les dégâts dans toute la province du KwaZulu-Natal sont considérables, explique Chamlin. Il préside un groupe de surveillance citoyen dans une commune du littoral.
Des maisons ont été emportées, des conducteurs ont été emportés, des voitures ont été bloquées dans la boue. Il y a eu des glissements de terrain et on n'est qu'au deuxième jour. Plus ils vont nettoyer, plus on risque de constater les dégâts et découvrir des corps.
Sur les réseaux sociaux, les familles donnent leur numéro de téléphone pour aider à retrouver des proches, dans l'espoir que les absents soient allés se mettre à l'abri.
Le cinéma français perd l'un des grands interprètes, Michel Bouquet, qui s'est éteint hier, 13 avril, à l'âge de 96 ans. Sophie Torlotin, RFI.
Michel Bouquet aurait sans doute préféré mourir sur scène, comme son personnage fétiche de Ionesco, le roi se meurt, pièce qu'il aura jouée plus de 800 fois. En 75 ans de carrière, ce monstre sacré du théâtre a mis son talent au service des auteurs, des contemporains comme Samuel Beckett, Albert Camus ou Harold Pinter, mais aussi des classiques Diderot, Strindberg et surtout Molière. Joueur infatigable et perfectionniste, le comédien mène aussi de front une carrière au cinéma. Sa voix posée, son phrasé impeccable, son regard espiègle ou inquiétant font merveille dans des rôles de notables ambigus, secrets et dévoyés des films de Claude Chabrol. Il tourne aussi sous la direction de François Truffaut où campe un inoubliable inspecteur Javert dans Les Misérables de Robert Hossein. Mais l'un de ses rôles les plus marquants est celui de François Mitterrand dans Le Promeneur du Champ de Mars.
Oui, c'est moi qui ai rédigé ce texte.
Robert Guédiguian expliquait en 2005 sur RFI pourquoi le président ne pouvait être que Michel Bouquet.
Bouquet a ce que j'appelle une théâtralité naturelle. C'est probablement ce qui l'a empêché de jouer beaucoup de chauffeurs routiers ou de patrons de bistrot. Sur scène, Bouquet a une aura. Ce qu'on pourrait appeler dans un film, pour incarner effectivement Mitterrand, une majesté en fait.
Acteur intense, Michel Bouquet avait eu aussi à cœur de transmettre son art à des générations d'apprentis comédiens, élèves du conservatoire.
On passe à la météo pour ce jeudi en Australie, à Perth. Il fera 27 degrés, Adélaïde 28, Melbourne 25, Hobart 20, Canberra 21, Sydney 23, Brisbane 26, Cairns 31, Darwin 35 et à Alice Springs maximale de 36 degrés. Un rappel des grands titres de ce jeudi 14 avril. Scott Morrison nie avoir rompu une promesse électorale clé de 2019 en ne mettant pas en place une commission fédérale sur l'intégrité en 3 ans de pouvoir. C'est donc la 4e journée de la campagne électorale qui se poursuit et le Premier ministre se trouve en Tasmanie alors que le chef de l'opposition se trouve dans le Hunter Valley de Nouvelle-Galles du Sud ce jeudi. Fin du journal et merci de rester avec nous.
Vous aimez le programme en français ? Continuons la conversation sur notre page Facebook. Rejoignez notre page Facebook et partagez vos pensées. facebook.com/sbsfrench.
Journal des sports et on commence ce journal avec bien du football et on connaît eh bien maintenant les affiches des demi-finales de la Champions League. Manchester City affrontera le Real Madrid et Liverpool affrontera le Villarreal, donc deux clubs anglais et deux clubs espagnols à ce niveau de la compétition. Retour donc sur ces différents matchs, tout d'abord avec eh bien le coup de sifflet final de Manchester City qui fait match nul contre l'Atlético Madrid 0-0, assez pour se qualifier.
C'est terminé au Wanda Metropolitano sur cette qualification de Manchester City pour les demi-finales. 0-0, ils célèbrent ce match nul, les joueurs Citizens. Mais 0-0 donc pour l'Atlético qui a dominé cette deuxième période mais qui n'a pas réussi à marquer malgré plusieurs occasions. Fin de match houleuse on va dire, alors que vous entendez quand même le stade Wanda Metropolitano qui honore son équipe et la joie des joueurs Citizens avec Pep Guardiola dans le stade.
Voilà donc pour le coup de sifflet final de ce match, donc 0-0 entre Manchester City et l'Atlético Madrid, qui qualifie donc les Mancuniens. L'autre match, eh bien, c'était Liverpool face à Benfica. Un match nul également, 3 partout, qui qualifie donc les Britanniques. Mardi, il y avait d'autres matchs. Retour sur cette journée donc de la Champions League avec Olivier Pron.
10e demi-finale sur les 12 dernières saisons, avec en point de mire un éventuel 14e titre. Oui, le Real est bien difficile à éliminer sur la scène européenne. Paris le savait, Chelsea l'a appris. Et pourtant, les hommes de Carlo Ancelotti ont perdu ce mardi chez eux 3-2 au bout d'une prolongation qu'ils sont allés chercher avec leur tripes, tant ils étaient mal embarqués pendant les trois quarts du match. Une qualification qu'ils sont allés chercher les Merengues grâce à l'inévitable Karim Benzema, auteur d'une tête smatchée en début de prolongation qui réduisait les et offrait la qualification. 12e but du Français cette saison dans la compétition. Chelsea n'avait plus que ses yeux pour pleurer après avoir mené 3-0, mis le Real au bord du chaos, mais le tenant du trophée s'arrête là. L'autre rencontre de la soirée a accouché d'une énorme surprise avec l'élimination du Bayern Munich chez lui par Villarreal. Les Espagnols s'étaient imposés 1-0 chez eux il y a 8 jours. Ils ont été menés sur le même score pendant 35 minutes après un but de Lewandowski avant d'être délivré à 2 minutes de la fin de la partie grâce à l'égalisation du Nigérian Chukwueze qui venait d'entrer. Pour la deuxième fois de son histoire, le sous-marin jaune sera au rendez-vous du dernier carré.
Olivier Pron pour RFI, on l'a vu donc, eh bien, le Real Madrid qui perd contre Chelsea sur son terrain, mais qui se qualifie quand même. Un très beau match de Chelsea tout de même. On écoute l'entraîneur de Chelsea, Thomas Tuchel.
We are very disappointed and very proud at the same time because we played a fantastic match. But we were unlucky. That's why we're disappointed. We got beaten by pure individual quality and conversion, offensive conversion of our mistakes. Unfortunately, we had two mistakes after ball wins, the most crucial moment in games against Real Madrid. We deserve to go through after this performance.
Thomas Tuchel, donc, après l'élimination de son équipe. Je vous rappelle, les demi-finales de la Champions League seront donc Manchester City face au Real Madrid et Liverpool face à Villarreal. Allez, on parle de tennis maintenant, le tournoi de Masters 1000 de Monte Carlo, tournoi qui prépare l'arrivée de Roland Garros. Quelques résultats, Zverev qui bat Delboni sur le score de 6-1, 7-5, Musetti qui bat le Canadien Ogier Aliassim sur le score de 6-2, 7-6, l'Australien Deminor qui perd contre Rublev le Russe sur le score de 2-6, 6-1, 6-4 et l'Italien Sinner qui bat Roussouveri sur le score de 7-5, 6-3. À noter quelques faits marquants dans ce tournoi de Monte Carlo. Première fois depuis 45 ans qu'il n'y a pas un Français au deuxième tour. Et notamment Joe Wilfried Tsonga qui tire sa révérence cette saison. On écoute le Français Joe Wilfried Tsonga.
De tout ce que j'ai pu faire ces derniers mois, ces dernières semaines... Honnêtement, c'est le moment où je me sentais le mieux, tennistiquement. Donc, déçu d'avoir eu un adversaire aussi fort, déçu de ne pas avoir pu défendre mes chances encore mieux. Triste parce que ça, c'était mon dernier Monte Carlo et voilà, j'aurais préféré que ça se termine un peu différemment. Mais j'espère qu'à un moment donné, ça me sourira un peu mieux et que je vais réussir à gagner un peu plus de matchs sur Rex et que ça va me lancer un peu pour pouvoir terminer en beauté.
Joe Wilfried Tsonga donc, et un autre fait marquant, eh bien, le retour de Novak Djokovic sur la terre après ses déboires en Australie, on s'en souvient bien. Novak Djokovic qui n'aura pas passé le premier tour.
Numéro 1 mondial, battu d'entrée pour son grand retour sur le circuit. C'était son premier tournoi important cette saison, celui de Monte Carlo. Alors, pas un grand chelem, mais un Masters 1000 tout de même. Et puis Monte Carlo, c'est un peu chez lui, puisque le Serbe est résident monégasque. Djokovic, battu par un Espagnol. Alejandro Davidovic Fokina, il est 46e à l'ATP. C'est pas exactement le meilleur joueur du monde. Pourtant, il s'est imposé le score 6-3, 6-7. Djokovic s'est repris dans la deuxième manche avant de s'écrouler 6-1 dans le troisième set. C'est une surprise, mais on se rappelle les récentes mésaventures du Joker, comme on le surnomme, et notamment son expulsion d'Australie en début d'année. Il n'était pas vacciné. Melbourne, le premier grand chelem de la saison, s'était disputé sans lui. Il est prévu tout de même que Djokovic dispute Roland-Garros.
Voilà, Novak Djokovic. Et c'est tout pour le sport pour aujourd'hui. On fait une courte pause et on retrouve Jean-Noël dans le reste de l'émission.
podcast en français est disponible quand vous le souhaitez. Écoutez nos rubriques à travers nos podcasts sur votre tablette ou votre mobile gratuitement sur sbs.com.au/french ou téléchargez l'application SBS Radio.
Et comme chaque semaine, on va parler d'économie avec notre spécialiste sur la question sur l'économie australienne, Nicolas Purpich. Bonjour Nicolas.
Bonjour Christophe.
C'est une belle introduction, vous êtes notre spécialiste.
Très, très belle introduction.
Alors on va parler aujourd'hui un peu de la pandémie, mais notamment de Pfizer, cette compagnie donc, qui est venue avec l'un des vaccins les plus efficaces contre le Covid-19. Eh bien Pfizer a offert de payer 100 millions de dollars pour une appli australienne qui diagnostique le Covid-19.
Ah ouais, assez incroyable. Celle-là, c'est le Noël pour cette compagnie qui vient du Queensland. Ils ont développé un app qui écoute comment on tousse, donc les bruits, les sons de chaque fois qu'on tousse. Et ils utilisent ça pour analyser ce qui se passe dans nos poumons et ils disent que ça peut nous dire si on a le Covid-19 ou pas. Et cette compagnie s'appelle ResApp et selon leur PDG Tony Keating, ça marche 92% du temps. Donc, évidemment, Pfizer est convaincu aussi parce qu'ils ont offert 100 millions de dollars pour acheter cette app, ce qui est énorme. Et il dit que vraiment, maintenant, ce deal avec Pfizer, ça pourrait vraiment changer comment on gère COVID. Donc, ça serait beaucoup plus facile, beaucoup plus rapide d'identifier les gens avec COVID. Et notamment, oui, Pfizer, c'est une des plus grandes compagnies pharmaceutiques au monde. Alors, ça donne vraiment l'opportunité pour cette app et pour tester cette app à un niveau global. Et l'idée pour l'app vient en fait d'un professeur de l'Université du Queensland et il s'appelle Udanta Abeyrant. Et il a compris que le son qui est créé quand on tousse, donc, ça donne des signes différents de ce qui se passe dans nos poumons. Et déjà, les médecins utilisent une version un peu différente de cette app pour faire du diagnostic pour l'asthme. Et c'est plutôt pendant les consultations médicales par vidéo, donc le telehealth. Donc, parce que le médecin peut pas être là à côté de vous, ils peuvent écouter les bruits qui viennent des poumons pour faire ce diagnose déjà pour d'autres problèmes comme l'asthme et là bientôt pour le COVID-19. Donc, mais c'est aussi un peu comme les rat tests et l'app marche seulement quand la personne a déjà des symptômes. Donc, si on n'a pas de symptômes et on ne tousse pas, évidemment, on ne va rien trouver de différent. Donc, vraiment assez excitant et très excitant pour cette compagnie de Brisbane.
Oui, tout à fait. Et c'est intéressant de voir que au tout début de la pandémie, on avait dit que la technologie va nous aider à en sortir. On a sorti ces apps à peu près partout dans le monde pour tracer, traquer, etc. Ça se trouve, tout était dans la toux des gens, en fait. Et c'est bien de voir que la technologie aide aussi à ce niveau-là, pas simplement au niveau des vaccins et autres remèdes.
Voilà, mais ça montre comment les gens ils pensent outside the box. Donc, ils avaient déjà cet outil qu'ils pouvaient utiliser pour autre chose et ils ont compris, ils ont adapté pour marcher avec COVID-19. C'est formidable.
Oui, ce qui est formidable aussi, et on va passer à un autre sujet après, mais c'est que ça ne vient pas de la Silicon Valley. Quand tout vient de la Silicon Valley, ça vient de la vallée au Queensland. C'est beau à voir.
Voilà.
Allez, un autre effet de la pandémie, c'est que c'est devenu très compliqué pour rénover vos maisons en Australie.
Ben voilà, ça c'est un peu ce que tout le monde fait en Australie. Tout le monde achète des maisons, puis on rénove la maison. C'est ce que tout le monde fait un peu. Et puis avec la pandémie, avec les confinements, personne pouvait sortir de la maison. On était là, donc les gens ils sont allés soit rénover eux-mêmes ou ils ont cherché des gens pour rénover leur maison parce que il n'y avait pas grand chose d'autre à faire. Et en fait, le gouvernement a aidé. Ils avaient des programmes, le Home Builder Stimulus Program. Et par exemple, le Bureau australien des statistiques montre que jusqu'au mois de septembre de l'année dernière, il y avait presque 100 000 maisons où il y avait soit de la construction toute nouvelle ou des rénovations. Mais le problème, c'est que en fait, maintenant, c'est devenu très difficile de rénover une maison parce que le prix de la construction est monté en moyenne par 9%. Mais il y a des endroits où c'est beaucoup, beaucoup de ça. J'ai des amis, par exemple, qui avaient préparé des plans pour rénover ou construire une maison. Et après, le builder est revenu leur dire, en fait, ça va vous coûter 15-20% de plus. Et donc, il y a des gens un peu partout qui ont dû dire, en fait, bon, non, c'est trop cher, faut qu'on arrête, on attend que les prix baissent. Et c'est pas juste les prix aussi, c'est que il y a un manque de matériel, des matériaux basiques qui sont pas là, du bois, des briques, etc., pour construire ces maisons, pour rénover les maisons. Et aussi, les tradies, ils sont en telle demande énorme que il y a des listes d'attente pour les avoir. Donc c'est quelque chose qui, en fait, on peut dire c'est il y a eu tellement de succès que c'est devenu un problème pour les gens. Et on peut même, il y a même des exemples assez ridicules. Il y a quelqu'un qui construisait une maison, un builder, et il pouvait pas trouver des toilettes pour la salle de bain. Des trucs vraiment de base comme ça. Il faut attendre vraiment, vraiment longtemps. Pareil, construire une salle de bain, si on veut des pavés, des tiles par terre, des fois il faut attendre des mois. Si ça doit venir de l'étranger, d'un autre pays, ça peut prendre vraiment très longtemps. Donc c'est quelque chose qui était inattendu, un effet financier inattendu de la pandémie, en fait.
Ouais, tout à fait. Et c'est vrai que ça rajoute aussi au coût des transports. Hein. On lisait, on en a parlé plusieurs fois, mais le coût des transports est passé x10, enfin, etc. Donc, du coup, il y a même des entreprises de maisons qui rendent les contrats. J'ai lu ça, qui rendent les contrats aux gens qui peuvent décider d'acheter une maison parce qu'ils peuvent pas, ils peuvent pas finir le travail dans les prix qui étaient accordés. Donc, les contrats qui sont annulés, c'est hallucinant d'ailleurs.
Oui. Et il y avait aussi parce qu'il y avait ce home builder stimulus, il y avait une date. Il fallait commencer la construction avant une certaine date. Alors, ce qui s'est passé parfois, c'est que ils ont mis le béton, le commencement de la maison, et ils ont laissé comme ça. Et le reste, ça sera fait plus tard. Mais comme ça, au moins, ils peuvent dire qu'ils ont commencé la construction et ils ont accès donc aux bénéfices gouvernementaux.
Ouais, tout à fait. C'est vraiment un effet de la pandémie. En tout cas, merci Nicolas d'avoir décrypté l'actu pour nous cette semaine, l'actu économique, bien entendu.
Merci Christophe.
Vous écoutez Le Français sur Radio SPS.
Voilà, 13h41 minutes et on passe à l'élection présidentielle en France et à l'issue du premier tour, comment les Français d'Australie ont une nouvelle fois placé Emmanuel Macron largement en tête. Mais le scrutin a apporté quelques surprises. Écoutez ce reportage de notre collègue Grégory Pless.
Votre communauté, vos conversations. SBS French.
À l'issue du premier tour de l'élection présidentielle, dimanche dernier, ce sont donc Emmanuel Macron et Marine Le Pen qui sont arrivés en tête et qui, de nouveau, vont s'affronter lors du deuxième tour le 24 avril prochain. Pour ce qui est des électeurs en Australie, la répartition des voix entre les différents candidats n'a pas beaucoup évolué par rapport au premier tour de 2017. C'est une fois encore Emmanuel Macron qui arrive largement en tête avec plus de 46% des voix. Un résultat qui ravit Charlie Strasbach, suppléant de la députée Anne Genetet et membre du comité En Marche en Australie.
Très, très satisfait et très reconnaissant, surtout de la part des Français d'Australie. C'est plus qu'en 2017. Donc, les Français d'Australie ont massivement voté pour Emmanuel Macron, 51% à Sydney, par exemple, là où je suis basé. Donc, vraiment très reconnaissant du vote qui a été fait. Maintenant, il ne faut pas non plus oublier l'abstention.
Le taux de participation, en effet, est en net recul cette année en Australie. Seulement 34% des électeurs inscrits se sont rendus aux urnes dimanche dernier. Ils étaient 48% 5 ans plus tôt.
Il y a un désintérêt, je pense, de la politique. C'est global, ce n'est pas juste en Australie, c'est plutôt global. Maintenant, pour ce qui est de l'Australie en particulier, beaucoup de Français ont réalisé un petit peu au dernier moment qu'il y avait ces élections présidentielles, où ils se sont intéressés un petit peu au dernier moment. Or, les contraintes géographiques en Australie font que parfois on est loin du bureau de vote. Et lorsqu'on veut faire une procuration, parce qu'il y a aussi un sujet sur les procurations, il faut attendre les tournées consulaires. Et certains Français ne réalisent pas que les tournées consulaires sont parfois peut-être 2 semaines avant le bureau de vote, et donc c'est trop tard.
Pour ceux qui sont allés voter ou qui ont fait leur procuration à temps, ils sont également nombreux à avoir voté pour des candidats de gauche dimanche. Jean-Luc Mélenchon arrive ainsi deuxième en Australie avec 19,6% des voix, suivi par l'écologiste Yannick Jadot qui lui recueille 11% des suffrages exprimés. Un score bien meilleur qu'au niveau national, qui ne surprend pas vraiment Jean-Philippe Grange. Il est le président du conseil consulaire et représentant d'EELB en Australie.
Je crois qu'il y a eu une mobilisation assez net, une composante vote utile qui semble s'être matérialisée sur la candidature de Mélenchon. Et puis, de tradition, là aussi, ça fait quelques scrutins qu'effectivement, l'Australie est un, je dirais, non pas un bastion, mais un pays où nos concitoyennes et nos concitoyens est pris d'écologie, ou en tout cas préoccupés par l'avenir de la planète, sont en grand nombre, et c'est très positif.
Des résultats satisfaisants donc dans la circonscription pour la gauche, mais bien évidemment qu'ils jugent décevants au niveau national, puisqu'en raison des divisions entre les différentes formations politiques de gauche, celle-ci n'est pas représentée au second tour. Alors pour continuer d'exister politiquement, Jean-Philippe Grange juge indispensable que la gauche se rassemble et mette de côté ces divisions.
On n'a plus vraiment le choix, je veux dire, ceux qui pouvaient douter encore de cela n'ont qu'à se reporter au résultat du scrutin de dimanche. Il faut que la social-démocratie, l'écologie, la gauche dans toutes ses composantes se parlent. Et ça commence très tôt puisqu'on a des législatives dans un peu plus d'un mois. Il faut absolument qu'on puisse se mettre. Alors je dis moi je ne suis qu'un représentant, un élu local ici en Australie, et je pense qu'il ne faut pas non plus surpolitiser le débat auprès de nos concitoyennes et de nos concitoyens qui vivent ici. Mais je pense que les électeurs l'ont montré. On est passé à très peu de choses d'un débat qui aurait été, je pense, beaucoup plus utile à notre République que celui qui se profile pour les 15 prochains jours.
Sans surprise, en Australie, les candidats d'extrême droite enregistrent un tout petit score. Marine Le Pen est à moins de 4%. Éric Zemmour, en revanche, recueille plus du double et obtient 7,95% des suffrages, davantage même que son score au niveau national. Pour Alexandre Wadou, délégué du parti Reconquête en Australie, ce résultat correspond à leurs attentes dans la circonscription.
Nous, c'était attendu parce qu'on savait qu'on allait capter une voix de la droite, les voix de la droite. Pécresse est inexistante. Et Le Pen, on savait que dans cette circonscription, enfin en Australie, elle fait très peu de voix. Elle fait rien du tout. Donc c'était attendu. L'Australie n'est pas du tout représentatif. Donc peu importe les résultats de l'Australie, on savait que c'était que des résultats très partiels et qu'on n'allait pas faire des très hauts scores en Australie.
La droite traditionnelle, comme en France, s'est complètement effondrée en Australie ce dimanche, alors que François Fillon avait recueilli un peu plus de 20% des voix en 2017, Valérie Pécresse est sous la barre des 4%. Alors où sont passés les électeurs de François Fillon ? Alexandre Wadou estime qu'une partie s'est portée cette année sur Éric Zemmour. Sébastien Valéry, représentant des Républicains en Australie, fait lui une autre lecture de ces résultats.
Je les pense avant tout dans l'électorat de centre-droit d'Emmanuel Macron s'être abstenu. Je vois les deux cela comme les deux vraiment les deux grandes dimensions, mais avant tout parti ou repositionné au centre droit.
Pour ce qui est du deuxième tour, les instituts de sondage prédisent un résultat très serré entre Marine Le Pen et Emmanuel Macron. C'est beaucoup moins vrai en Australie, où en 2017, plus de 90% des électeurs avaient voté pour l'actuel président de la République. Ceci étant dit, Charlie Strasbach estime que son camp doit rester mobilisé et que même dans une circonscription comme l'Australie, acquise à Emmanuel Macron, chaque voix va compter. Il pense même que les voix des Français de l'étranger pourraient être déterminantes à l'issue de ce second tour.
Certes, dans les sondages, Emmanuel Macron est légèrement favori, mais si vous regardez les marges d'erreur, Marine Le Pen peut tout à fait être présidente de la République. Il y a aucun doute là-dessus. Donc, il va falloir mobiliser, je dirais même sur-mobiliser. Emmanuel Macron fait de très bons scores en Australie, mais même parmi les Français de l'étranger en général, il va pas falloir faire de bons scores, il va falloir faire de très bons scores. Il va falloir vraiment mobiliser à fond parce que moi, je suis persuadé que les voix des Français de l'étranger vont faire une différence. En fait, c'est exactement ce qui s'était passé pour les élections européennes. C'est-à-dire que les élections européennes, si vous prenez les voix de métropole, Marine Le Pen est devant et a plus de députés européens que Emmanuel Macron. Et c'est les Français de l'étranger qui, en fait, font la différence et qui font que La République En Marche et le parti de Marine Le Pen sont à égalité en termes de députés. Je suis persuadé que cette année, les voix des Français de l'étranger vont faire la différence.
De son côté, le délégué du parti Reconquête ne s'attend pas à un miracle cette année au second tour pour Marine Le Pen en Australie. Il pense néanmoins que la victoire d'Emmanuel Macron n'y sera pas aussi écrasante qu'il y a 5 ans.
Je pense qu'on fera plus de 10% parce qu'il y a clairement des consignes de vote de Reconquête pour voter, pour faire barrage à Macron. Donc pour les pronostics, on espère faire plus, mais... On s'en fiche un peu, parce que notre objectif maintenant, c'est les législatives.
Les législatives, ce sera donc à partir du 12 juin pour le premier tour, et c'est plutôt là que le représentant de Reconquête place ses espoirs, même s'il reconnaît qu'au final, tout dépendra du résultat du second tour de l'élection présidentielle.
C'est une circonscription très difficile pour Reconquête, je ne le cache pas. Après, le député qui sera élu aussi bénéficiera de la dynamique de la campagne. Donc en fonction des résultats du second tour, le député sera plus ou moins déjà dans une position favorable. Donc voilà, on a une chance, on peut faire des bons résultats locaux. On a dans la circonscription des très bons résultats à Hong Kong par exemple, à Moscou. Bon, on a des très bons résultats localement, donc on a un espoir sur les législatives, mais ça dépendra de la dynamique du second tour.
En attendant les législatives, le second tour de l'élection présidentielle, rappelons-le, ce sera le 24 avril. Pensez donc à aller voter. Et pour ceux qui souhaiteraient même en faire un petit peu plus, sachez que le consulat est à la recherche de volontaires pour aider au bon déroulement du scrutin dans les bureaux de vote. Si vous souhaitez donner un coup de main, il faut prendre contact avec le consulat. Vous retrouverez le lien qui permet de rentrer en contact avec le consulat sur notre site internet.
Vous êtes passionné de films ? SBS On Demand a des centaines de films disponibles, visionnables à n'importe quel moment. Pour le meilleur des films dramatiques, des documentaires, des films d'horreur, des comédies et des films d'amour, allez sur sbs.com.au/on-demand.
Vous écoutez le programme en français et on passe au mot de la semaine.
Bonjour et bienvenue dans le mot de la semaine de SBS Easy French. Alors chaque semaine, en début de semaine, nous allons décrypter l'actualité avec un mot marquant de la semaine. Et cette semaine, Thomas, vous nous avez choisi le mot
scrutin, Christophe. Voici un mot bien populaire ce mois-ci dans un contexte d'élection présidentielle en France et à l'approche des élections fédérales australiennes en mai. Mais pourquoi exactement parle-t-on en français de scrutin pour désigner un vote à bulletin secret ? Faire scrutin ou scrutiner, du latin médiéval scrutinare, c'était à l'origine fouiller. Examiner une opinion dans les moindres détails avant de faire son choix. Et c'est ainsi, par extension, que se tenaient les élections dans les communautés religieuses au Moyen-Âge à vote secret. si le scrutin est hérité des méthodes de l'Église chrétienne, il est intéressant et même amusant de constater que la France laïque est la seule à utiliser cette racine latine. Pour traduire scrutin, les Italiens disent « votazione », les Espagnols « votación » et les Anglais « ballot », que l'on retrouve aujourd'hui dans l'expression « être en ballotage ». Mais ça, c'est une toute autre histoire. On se retrouve la semaine prochaine avec un nouveau mot de la semaine en lien avec l'actualité. En attendant, vous pouvez réécouter tous les mots de la semaine sur le site internet d'SBS et sur toutes les plateformes.
Et en fin d'émission, un rappel des grands titres de ce jeudi 14 avril, quatrième journée de la campagne électorale en Australie. Le Premier ministre était en Tasmanie ce matin, alors que le chef de l'opposition se trouve dans le Hunter Valley de Nouvelle-Galles du Sud. Les aéroports australiens connaissent une journée difficile, avec des milliers de personnes qui prennent l'avion pour le long week-end de Pâques. Et voilà, en fin d'émission, je vous laisse avec Jean Ferrat qui nous interprète le bilan. Prochain rendez-vous, c'est samedi à 13h sur les ondes de SBS French. Belle journée, à bientôt.
Au nom de l'idéal qui nous faisait combattre et qui nous pousse encore à nous battre aujourd'hui. Mais quand j'entends parler le bilan positif, je ne peux m'empêcher de penser à quel prix. Et ces millions de morts qui forment le passif, c'est à eux qu'il faudrait demander leur avis. N'exigez pas de moi une âme de comptable pour chanter au...
Aimez, partagez, commentez. Suivez-nous sur facebook.com/sbsfrench.